France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Avec très brève théorie de l'enfer, il poursuit son examen de nos rapports à l'autre et à l'ailleurs. Le romancier Jérôme Ferrari sera mon invité à partir de 13h. Et on commence cette émission avec la table ronde critique du jour. Aujourd'hui, on parle des films Le Testament d'Anne Lee de Mona Fastvol et Scarlett et l'Éternité, le nouveau film d'animation de Mamoru Hosoda. Vous écoutez les midis de culture et ça commence à se voir. Et pour discuter aujourd'hui autour de la table, Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large le samedi à 13h30 sur France Culture, bonjour.
Bonjour Marie.
Charles Bosson, critique essayiste et documentariste, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
For those new here, who are unaccustomed to a woman preacher. Come nearer to me. J'en suis sûre. N'ayez pas peur. Nous avons tous souffert durant notre voyage. Nous avons fait d'énormes sacrifices afin de recevoir l'amour le plus fort qu'une femme puisse connaître.
Selon la légende, voici l'histoire d'Anne Lee.
On commence donc avec Le Testament d'Anne Lee, film réalisé par la Norvégienne Mona Fastvold et co-scénarisé par son compagnon Brady Corbett. Ces deux-là travaillent main dans la main. On leur doit notamment The Brutalist, où cette fois Brady Corbett était derrière la caméra. Avec Le Testament d'Anne Lee, il s'agit encore de suivre les pas d'une visionnaire incomprise qui a vraiment existé cette fois, cette Anne Lee, qui au XVIIIe siècle a pris la tête des Shakers, une secte persécutée en Grande-Bretagne, et les a guidés aux États-Unis. Mais là encore, leur façon de vivre en communauté, leur foi bruyante et extatique, les confrontera à la violence. Amanda Seyfried incarne cette femme gourou en quête d'absolu. On commence avec quelques mots, Charles Bosson.
Alors je dirais que le film est d'abord très séduisant, d'abord par son récit, ce personnage dont j'avais jamais entendu parler, ce mouvement de l'Europe vers l'Amérique. Et puis petit à petit, sa sophistication et ses expérimentations sonores finissent, je trouve, par charger le film, qui finit un peu par s'écraser sous son propre poids.
Antoine Guillot ?
Ben c'est sans doute la chose la plus bizarre que j'ai vue depuis longtemps et j'en vois des choses bizarres. Je suis assez confondu par le projet, entre le prosélytisme doloriste premier degré et la comédie musicale de consommation courante. C'est étrange.
Alors Charles Bosson, est-ce qu'il faut le prendre au premier degré selon vous ou pas, ce film ?
J'ai l'impression...
C'est une vraie question quand même. On a une femme gourou. Bon.
Absolument, qui s'appelle Anne Lee, donc qui fait partie de ces Shakers, donc une secte dérivée des Quakers. Donc on les appelle Shakers parce que littéralement ils tremblent, ils se mettent en transe, ils passent des heures de nuit à danser, à chanter, et elle va connaître un certain succès une fois qu'ils auront émigré en Amérique, puisqu'ils sont persécutés en Angleterre, et à partir de là c'est une secte qui va avoir certaines innovations, notamment techniques dans les domaines de l'agriculture. Donc au départ on suit vraiment ce personnage avec une grande sophistication, donc cinémascope, beaucoup de détails, plein de titres assez mystérieux, poétique. Très vite, on est surpris par des chansons. Donc, même si elles sont chantées de manière live, en direct, elles sont très anachroniques. On a quand même toujours l'impression d'être dans un concert contemporain et dans une salle de concert aujourd'hui. Et petit à petit, pour moi, c'est vraiment très proche. Je comprends tout à fait le lien avec The Brutalist de Brady Corbett. Donc, cette fois, Brady Corbett est co-scénariste. Ouais. Elle était, vous l'avez dit, co-scénariste de Brutalist. C'est un peu le même genre de portrait, c'est-à-dire d'immigrés européens qui ont fui des persécutions et qui arrivent dans un monde qui leur offre des opportunités, mais qui est en fait à nouveau un monde plein de pièges. Et pour moi, les tics sont les mêmes, c'est-à-dire que on surcharge. Le sound design est très 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 bruyant. C'est le même compositeur qui a fait les deux films. Et petit à petit, les informations sont tellement fortes qu'on finit par en oublier le côté brûlant, le côté chanson de geste qui aurait pu être assez passionnant. Moi, c'est cet aspect-là qui m'a d'abord captivé. C'est vraiment de montrer cette Anne Lee, donc un personnage assez problématique. On reviendra là-dessus, mais qui au départ est montré vraiment comme comme une Jeanne d'Arc qui part vraiment à l'aventure. Et on raconte comme ça sa vie avec son groupe. Elle subit énormément de violences. Elle perd 4 enfants après des accouchements absolument atroces. Et on comprend très vite que c'est grâce à la danse et grâce à ces transes collectives que tous ces corps un peu meurtris arrivent à se libérer d'une certaine manière. Et c'est là que finalement je trouve que le piège du film se referme sur lui, sur un discours un peu simpliste, c'est-à-dire qu'on découvre plein de choses, ces communautés religieuses qui pullulent et qui se multiplient à la fin du 18e aux États-Unis, mais petit à petit, voilà, on finit sur quelque chose de très simpliste et on épouse de manière un peu trop immersive et un peu trop premier degré le point de vue de cette héroïne.
Donc on revient au premier degré dont parlait Antoine Guillot. Antoine.
Oui, c'est un peu la version sulpicienne de Sirat, parce que on pourrait les voir et c'est l'analogie a été relevée un peu partout, comme une bande de teufeurs, de ravers persécutés, justement, parce qu'ils bougent un peu trop et ils font du bruit. Le problème du film, c'est d'abord qu'il colle effectivement complètement à son personnage, mais on a l'impression de voir l'évangile par moment. D'ailleurs, tout le film est raconté avec une voix off très pesante par une de ses adeptes, qui va être sa turiféraire, sa biographe, et le film ne décolle jamais de ça. C'est une Jeanne d'Arc, mais c'est un bloc inébranlable, c'est-à-dire qu'elle peut tout subir. Effectivement, alors elle va perdre ses 4 enfants dans une montage sequence, comme on appelle, donc succession de compression du temps, et hop, elle se fait besogner par son mari, elle aime pas ça, elle est enceinte, et hop, elle perd son enfant, et hop, ça se répète. Je trouve ça très, très, très embarrassant dans cette manière, vraiment, quand je parlais de dolorisme, quoi, c'est vraiment lui faire subir tout, mais montrer qu'elle résiste en permanence. Donc il y a déjà ce manque de distance, je dirais, parce que le phénomène sectaire, on sait que les sectes protestantes, c'est pas exactement les mêmes sectes qu'aujourd'hui, mais enfin, elle est quand même montrée, vous l'avez dit, comme un gourou avec des adeptes en transe. Ce n'est jamais interrogé, ce n'est jamais questionné. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, c'est quand même un film extrêmement excessif, très lourd dans cette manière de faire les gros bras, de montrer, regardez tout le cinéma qu'on déploie, regardez ces mouvements de caméra sur une assaise, c'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui est censé être complètement austère, ascétique, refusant tous les plaisirs de la chair, sauf celui de la danse, et le film n'est jamais raccord avec ça. Ensuite, les moments de comédie musicale sont quand même, quand vous dites des concerts d'aujourd'hui, c'est un peu la Starac ou ce qu'on enseigne dans les écoles de comédie musicale aujourd'hui. Ce sont des chorégraphies quand même assez nulles, assez navrantes. La musique est quand même pas terrible et c'est un problème parce qu'on devrait être transporté. Il y a un moment où si on veut qu'on s'abandonne à cette secte, qu'on nous mette nous-mêmes en transe, et c'est là que je parlais du côté Sirat, moi-même étant assez peu teufeur dans la vie, j'ai quand même été mis dans un état de transe absolu en voyant le film, et le film, à force de faire de la démonstration de force, échoue complètement à nous emporter avec ça. Après, il y a des choses assez rigolote si on a un esprit tordu derrière, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle prône l'abstinence totale qui est tellement totale que la secte va disparaître parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire. C'est le testament d'Anne Lee, c'est rien, ce sont des meubles, parce qu'on a vanté beaucoup le design de ces shakers, et maintenant les meubles qu'ils ont fabriqués, maintenant qu'ils ont complètement disparu, se vendent à des prix d'or aux États-Unis. Et alors pourquoi elle aime pas le sexe? Bah parce que c'est le problème de la promiscuité. Quand vous êtes très serrés les uns avec les autres, que toute la famille dort dans le même lit, bah vous voyez vos parents faire l'amour, et ça c'est la scène primitive absolue. Son mari aura beau essayer d'enchanter le couple par des pratiques BDSM qui sont vraiment très à la mode en ce moment, le BDSM au cinéma, bah ça ne fera que la dégoûter encore plus. Enfin, c'est assez navrant en fait.
Alors moi je relèverais quand même un petit peu la qualité des scènes musicales. Vous dites Starac, je comprends, mais moi je retrouve quand même un fil rouge dans chez une chorégraphe très talentueuse et que tout le monde s'arrache en ce moment, qui s'appelle Celia Rolson Hall, qui avait fait le film After Young, qui a fait des chorégraphies du film Smile 2, où il y a une scène absolument géniale de 1 2 3 soleil avec un groupe, et ce qu'elle compose, on va la retrouver bientôt, qui est en tant que chorégraphe dans le film The Drama avec Robert Pattinson et Zendaya, qu'elle a extrêmement à nouveau dansée. Et ce que je vois d'un film à l'autre, c'est qu'elle travaille de manière très très élégante et avec une vraie singularité sur des groupes qui se déplacent, des amas de corps. Et là-dessus, la caméra de Mona Fastwoll arrive très bien, je trouve, à capter une espèce de respiration, de travailler sur le souffle, d'éviter des remixes électro ou des anachronismes trop superficiels, mais d'aller vraiment justement, tout est joué en direct, tout est extrêmement répété. Ces scènes-là, moi, au départ, m'ont vraiment impressionné. Ce que je reproche au film, c'est que les scènes se répètent de manière un peu identique et que ces effets de transe, comme vous dites avec Sirat, finalement finissent par épuiser le spectateur. Il faut parler aussi quand même de la performance d'Amanda Seyfried, qui est vraiment une actrice très remarquable, qui a commencé un peu comme une sorte d'ingénue. Elle jouait dans le film Mamma Mia, dans des choses très commerciales. Et puis petit à petit, elle est allée vers le cinéma d'Atom Egoyan avec Chloé, vers des films d'horreur un peu étranges comme Jennifer's Body. Et puis en 2017, elle a eu quand même une année assez extraordinaire, puisqu'elle était à la fois dans Twin Peaks, la saison 3 de David Lynch, et First Reform, Les Chemins de la Rédemption, le chef-d'œuvre de Paul Schrader. Et je trouve que depuis, elle arrive à construire quelque chose. On la voit évoluer en tant qu'actrice. Et pour moi, elle porte le film, elle accompagne ces différents personnages et on est absolument fasciné ou en tout cas captivé par sa performance. Le problème à nouveau étant que le film n'adresse jamais cette dimension d'illuminée religieuse et son éventuel danger. Je crois que le film prône un peu naïvement la liberté de culte et filme ces cultes justement comme des groupes de rock. Donc au début c'est assez marrant parce qu'on se dit voilà, on pourrait monter son groupe. Dans les années 1770, quand on s'ennuyait un peu en ado, au lieu de monter un groupe, on montait une petite secte. Donc cet aspect-là pourrait être presque drôle si on en revenait. Mais le film avance vers une espèce d'éloge très bas du front d'une sorte d'égérie féministe qui aurait inventé l'écoféminisme, qui est contre l'esclavage puisqu'elle s'indigne dès qu'elle voit des esclaves. Donc voilà, le film est très compliqué et beaucoup plus simple malheureusement qu'il ne le prétend.
Alors, Antoine Guillaume, vous voyez une filiation ou des ramifications qui vont avec The Brutalist, le précédent film qu'ils avaient écrit et réalisé ensemble?
Oui, la même pesanteur, déjà, la même démonstration de force dans les effets, et après, évidemment, c'est la même histoire au féminin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive d'Europe chargé d'un lourd traumatisme et qui va tenter de construire quelque chose dans une Amérique qui est déjà tellement normée qu'elle ne va pas vouloir de cette exception, même manque de distance par rapport au personnage, mais après, effectivement, à mettre au crédit du film la performance d'Amanda Seyfried, parce qu'elle est à fond dans son personnage. Et c'est tout ce qu'on demande à un acteur ou une actrice de s'investir dedans. Le problème, c'est que la réalisatrice ne doit pas avoir le même sentiment, parce qu'elle doit quand même proposer un point de vue et le point de vue ne décolle jamais de ce qu'elle propose. Mais c'est quand même assez épatant ce qu'elle fait, Amanda Seyfried.
Mais je dirais que les deux films, Brutaliste et Anne Lee, ont en commun d'être des montagnes qui accouchent de souris. Et je préfère, moi, quand même Brutaliste, qui, dans sa première partie, vraiment sur l'architecture, m'avait époustouflé, ce qui n'est jamais le cas de Anne Lee.
Anne Lee, le testament d'Anne Lee de Mona Fastwoll, qui sort aujourd'hui, précisément. Et c'est l'heure de votre coup de cœur, Antoine Guillaume, pour un film d'animation.
Oui, alors c'est encore plus bizarre et halluciné que tout ce dont on va parler aujourd'hui. C'est le vrai film mystique de la semaine. Ça s'appelle Planète. Planète au pluriel. Et c'est un étrange mélange de fables écologiques et de documentaires naturalistes, d'épopées cosmiques et de trips psychédéliques. Vous n'avez pas besoin de prendre de substances pour voir ce film qui raconte une odyssée de quatre graines de pissenlit qui vont quitter la planète Terre suite à une explosion nucléaire et qui vont migrer dans l'espace et chercher une planète favorable où elle va pouvoir faire son trou et germer. Alors déjà dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais quand vous voyez le film, c'est encore plus bizarre parce que vous avez l'impression de voir un film entièrement généré par une intelligence artificielle qui aurait buggé. Et en fait, tout ce que vous voyez est vrai. Sauf les graines de pissenlit qui, elles, sont animées en 3D, mais tout le reste a été filmé par Momoko Seto. Momoko Seto, qui est une japonaise installée en France depuis très longtemps, qui a fait les Beaux-Arts, qui a fait le Frénois, mais qui est aussi réalisatrice au CNRS. Mais deux films qui n'ont rien à voir avec le avec la nature, puisqu'elle est spécialiste de des sciences humaines là-bas. Elle a fait un très beau documentaire sur Edgar Morin. Et là, en fait, elle a filmé alors la nature, mais en macrophotographie, c'est-à-dire que vous prenez une limace et ça a l'air d'être un cheval gigantesque, mais elle va aussi faire du time-lapse, c'est-à-dire, vous connaissez ces images, on voit des fleurs germer, faner, mais elle va le faire avec beaucoup de végétaux très étonnants, ou au contraire, elle va faire de l'hyper-ralenti avec des papillons qui volent comme ça au ralenti. Elle va filmer des images de paysages en Islande, au Japon, et elle va combiner tout ça pour faire ce trip complètement délirant, voilà. Avec ces quatre graines de pissenlit qui vous provoquent, qui vous transmettent des émotions énormes alors qu'elles n'ont pas d'yeux, pas de bouche, pas de bras, pas de jambes, et ça vous bouleverse, voilà. Et vous voyez ça complètement halluciné et vous vous rendez compte que par le cinéma, on peut voir la nature complètement autrement et en faire un territoire fantastique et de poésie absolue. Voilà, ça s'appelle Planète de Momoko Seto et franchement, c'est à ne pas rater.
Et les autres. Et je me vengerai.
Je suis en train de rêver. Que fait une vivante dans le monde des morts?
J'aimerais le savoir. J'ai du mal à y croire.
Ah, qu'est-ce que c'est?
Capturez la princesse!
Arrêtez de vous battre! Posez vos armes et parlez-vous!
Accepte la réalité! Regarde devant toi!
Tu vas encore te battre.
C'est ma vie.
Scarlett et l'éternité, c'est le nouveau film d'un des grands réalisateurs d'animation japonais, Mamoru Hosoda, que d'aucuns considèrent comme l'héritier naturel de Miyazaki. On lui doit entre autres La Traversée des Temps, Les Enfants Loups et Mirai, Ma Petite Sœur, des films où le fantastique permettait à Hosoda d'explorer l'intime et les liens humains. Avec Scarlett et l'éternité, le changement de braquet est assez notable. Inspiré du personnage d'Hamlet, Scarlett est une jeune princesse guerrière prête à tout pour venger la mort de son père. Et en chemin, elle rencontre Ijiri, qui lui est un jeune homme tout à fait pacifiste. Antoine Guillot, quelques mots d'abord.
Alors, s'il la rencontre, si elle le rencontre, faut quand même préciser que c'est un Hamlet qui aurait raté son coup, qui aurait pas réussi à se venger, et c'est elle qui se retrouve empoisonnée et donc qui se retrouve au royaume des morts. Et là, elle rencontre effectivement ce jeune infirmier qui lui vient du présent. Alors c'est un drôle de film, assez barré. Pas toujours convaincant, mais parfois totalement percutant par les visions qu'il vous propose.
Quoi. Charles Bosson.
Alors oui, je dirais quand même que ça confirme un peu malheureusement la chute d'un géant. Je pense que le film est extrêmement mal écrit, mais qui n'est pas dénué de certaines fulgurances formelles.
Vous êtes à peu près d'accord finalement là-dessus. Antoine Guillaume.
Alors oui, dans les visions hallucinées, moi, il y a ce moment extraordinaire quand elle se réveille dans le royaume des morts et qu'elle se retrouve agrippée par des bras de cadavres qui l'ensevelissent de partout, qui sont en fait tous les guerriers de l'histoire, puisqu'on est dans un monde où le présent, le passé, le futur se mélangent. Enfin, le temps n'existe plus tous les gens qui sont morts un peu de façon violente sont là et ont les mêmes problèmes, les mêmes instincts guerrier que dans le passé. Ça, c'est quelque chose d'assez fulgurant. Moi, j'aime beaucoup la manière dont le personnage, en fait, s'abîme au fur et à mesure. Et ça, c'est très beau graphiquement parlant. C'est de la 3D, mais habillé avec des textures de dessinées. Le personnage va avoir son visage, voilà, de plus en plus terreux, de plus en plus baveux, de plus en plus abîmé par la vie. Et c'est pas souvent qu'on voit des personnages de dessins animés qui souffrent de l'environnement dans lequel ils sont. Ensuite, on parlait de danse tout à l'heure. Tout d'un coup, on est projeté dans l'avenir et il y a une chanson un peu sirupeuse sur laquelle les deux personnages vont danser et c'est très beau. Moi, j'étais presque ému aux larmes en voyant ça. Il dit à un moment, Dieu ne comprend pas la langue des hommes, on lui transmet nos sentiments par la danse et c'est exactement ce qu'il arrive à faire. Et c'est ça qui est étonnant dans ce film, c'est qu'il y a plein de moments d'une grâce absolue dans un récit dont on a quand même pas grand chose à faire. C'est pas un film qui est tenu par son scénario et ni même par son unité formelle, parce qu'en fait tout ça est très très hétérogène, Mais ce que je trouve très beau et presque expérimental, c'est qu'il y a des moments de pure animation, enfin vraiment presque gratuit, qui vous montrent que on n'a pas besoin de récit pour vous provoquer vraiment mais une émotion bouleversante par moment. Donc c'est un film très étrange, comme s'il faisait ses gammes, qu'il essayait des choses en n'ayant plus rien à faire de vous proposer un récit bien ficelé, parce qu'il a fait ses preuves auparavant ou parce qu'il est en pleine chute comme on peut le remarquer. Mais après tout, pourquoi pas? Je trouve ça un geste assez audacieux de se dire, écoutez, j'en ai plus rien à faire, je vais vous animer les effets spéciaux numériques, des foules, mais on a l'impression d'être chez Cécile B2000 par moment, quoi. Des foules hallucinantes de guerre comme ça, ça c'est beaucoup plus impressionnant que Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et puis après tout, voilà, quoi, prenez ou prenez pas, mais moi je me suis bien amusé à le faire, semble-t-il dire, et par moment, moi je me suis bien amusé à le voir.
Charles Bosson.
Écoutez, le film a été un bide retentissant au Japon et provoque vraiment la colère des fans. Hein, si vous cherchez sur YouTube des vidéos, on vous expliquera pourquoi le film est complètement raté, comment il s'est vendu, je crois que les gens lui reprochent beaucoup tout simplement son mélange de textures. C'est quelqu'un qui était très lié aux deux dimensions, ouais, et presque à une nostalgie de l'animation. Bon, il avait aussi une très grande scénariste qui s'appelle Satoko Okudera, avec qui il a fait ses trois films absolument parfaits, qui étaient La Traversée du Temps, Summer Wars et Les Enfants Loups. Et à un moment, il a préféré écrire seul. Et à partir de là, on voit très bien comment tout est écrit pour la forme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un très grand plaisir formel. Le Hamlet est expédié en 4 minutes. Ça, c'est quand même assez amusant. C'est-à-dire que très vite, Claudius dégage, le père est massacré. Et effectivement, elle se retrouve au pays des morts. Alors ça, c'est un genre très populaire au Japon qui s'appelle l'isekai, l'autre monde, où un personnage va être transporté dans un ailleurs et va quelque part régler ses comptes. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un genre qui vient de la littérature pour enfants, évidemment, Alice au Pays des Merveilles, et Le Magicien d'Oz, auquel on pense beaucoup. Et pour moi, ce qui est très très beau dans ce film, et il y a eu quand même quelques grands moments de spectateurs, c'est tout à coup comme un palimpseste. On retrouve des personnages, pensez au Maître du Temps de René Laloux, je pense tout à coup à La Belle et la Bête, avec des choses de Disney, tout à coup des personnages, des formes comme ça qui émergent. Et cet autre monde n'est ni tout à fait le présent, ni tout à fait le passé, ni tout à fait l'avenir, et toutes les cultures se mélangent. Le problème, c'est que le japonais uniformise tout. Je pense que le film aurait énormément gagné à faire entendre d'autres langues. Alors, comme vous dites, on entend la danse, effectivement. Ça, c'est très surprenant. C'est-à-dire que la danse, c'est une langue. Et elle vient un petit peu parasiter, justement, cette langue japonaise qui écrase un peu tout. Voilà. Après, moi, j'aime bien les hybridations. Et je pense que c'en est une assez originale et qui répond aujourd'hui à certains films comme le chef-d'œuvre The First Slam Dunk, qui était très original dans sa façon de mélanger du dessin, de la rotoscopie, ou même le très étrange K-pop Demon Hunter. Et je crois que ce film-là et Osoda essayent de répondre à une sorte de nouvelle forme de blockbuster un peu mondialisé d'animation. Alors je ne sais pas si c'est réjouissant ou un peu terrifiant, mais en tout cas ça crée un espèce de monstre assez fascinant.
Antoine Guillaume.
Oui, je crois que ça essaye de répondre aussi. Alors là, c'est un domaine dans lequel je suis totalement inculte, mais aux jeux vidéo. Il y a quand même ce sentiment qu'on va passer, voilà, d'un niveau à l'autre, d'un univers graphique à l'autre, presque qui aurait été réalisé par des studios indépendants à l'autre bout du monde, avec aussi des personnages non joueurs, donc qui sont vraiment là pour faire figuration, mais dans lequel on a là encore, peut-être parce que je suis néophyte dedans, mais assez de plaisir, quoi, à se promener dans ces décors assez époustouflants de désert, dans ces ciels complètement hallucinés, dans cette espèce d'étrange dragon qui flotte en permanence, hérissé d'épées. C'était comme si les dragons de Game of Thrones avaient mangé le trône de fer et avaient régurgité toutes ces épées. Donc on comprend pas trop à quoi il sert, juste parce qu'il est beau. Et puis tout d'un coup, il intervient. Voilà, il intervient comme un Deus Ex Machina qui était annoncé dès le début. Et puis il y a quand même cette idée assez belle dans... Alors le discours est un peu lénifiant sur faut faire la paix c'est mieux que la guerre, etc. Mais ça va plus loin que ça. Ça va sur interroger son propre désir de vengeance quand on est un personnage qui a quelque chose à venger. Et la question du pardon, par exemple, est abordée de manière assez originale. Il ne s'agit pas de pardonner à ceux qui ont tué les êtres qui vous sont chers. Il s'agit de se pardonner soi-même d'avoir cédé au désir de vengeance. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, qui me semble déjà aussi un peu original.
Charles Bosson, ce personnage de Scarlett, il est bien défini.
Alors, déjà, il ressemble beaucoup au personnage de Belle, qui était le film précédent de Osoda, qui était déjà inspiré de contes de La Belle et la Bête. Donc, on retrouve vraiment.
Qui jouait déjà avec l'idée du jeu vidéo.
Absolument. D'ailleurs. Et alors, ça, c'est un truc que faisait Osoda extrêmement bien, qui me manque un peu ici. C'est quelqu'un qui hybridait aussi le monde internet, le monde connecté avec le passé, le folklore, des formes plus anciennes. Là, une fois qu'on est dans ce monde, on s'attend quand même à une initiation, à des rites de passage. À un moment, on parle de montagne sacrée. Je me suis dit, tiens, bien sûr, le film de Jodorowsky, La montagne sacrée, est aussi un enfant du magicien d'Oz, puisqu'il se termine comme le magicien d'Oz, avec un dieu, ou en tout cas une promesse de vie éternelle qui n'en est pas. Et pour moi, le gros problème est là. C'est-à-dire, je peux comprendre la trahison que ressentent certains spectateurs, peut-être au Japon, ou des gens qui adorent ce cinéma-là. C'est qu'en fait, on fait tout cette grande traversée d'épreuves pour finalement accoucher, effectivement, la guerre c'est mal, mais sans par exemple du tout remettre en question le fait d'être reine, c'est-à-dire qu'elle va devenir une sorte de reine bienveillante, pourquoi pas. C'est,
et elle va retrouver ses robes de
reine. Et retrouver ses robes. Et le corps, effectivement...
Mais elle s'est coupée les cheveux.
Voilà.
Et cette chevelure rose dans les combats est absolument somptueuse dans un univers très gris, très terreux, très métallique, et tout à coup elle se déplace dans tous les sens, il y a de belles scènes de combat. Mais alors, je pense que c'est un film qu'il faut... Si on a envie de voir ce film, il faut le voir dans une grosse salle, bruyante. Le film est diffusé dans certains IMAX. Je pense que c'est un film avec un sound design très subtil, très compliqué, autant que Ang Lee. C'est peut-être le lien justement entre ces deux œuvres. Encore un film aussi qui accouche un peu d'une souris, mais qui vous emmène effectivement dans des découvertes de paysages assez spectaculaires.
C'est un film qu'on peut voir à partir de quel âge, selon vous?
C'est un peu brutal, ouais, quand même, donc je dirais à partir de 10-11 ans.
10-11 ans, voilà. On est d'accord.
10-11 ans. Un dernier mot là-dessus?
Oui, non, mais j'aime bien cette idée, effectivement, d'un film qui est tellement fait de pièces rapportées, un peu brac-ballant, que c'est effectivement un film qu'il faut voir au cinéma, mais il n'y a pas de problème si vous voulez aller vous chercher du pop-corn ou aller aux toilettes pendant le film, vous ne serez pas paumé, parce que là encore, ce n'est pas tant l'histoire qui compte que les visions parfois hallucinées qu'il propose.
Et le corps, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la bave, il y a des larmes, il y a du sang, et on entend beaucoup crier Ikiru, ce qui veut dire il faut vivre, et qui était le titre d'un des plus beaux films d'Akira Kurosawa.
Scarlett et l'éternité, le nouveau film d'animation de Mamoru Hosoda qui sort aujourd'hui. Charles Bosson, merci beaucoup d'être venu dans les midis. Antoine Guillot également. Et Antoine, vous célébrez les 10 ans de votre émission Plan Large par un enregistrement en public. Et ce sera
C'est vendredi. Vendredi 13, voilà, vendredi, à 18h à la Cinémathèque française.
À la Cinémathèque française, avec notamment Bertrand Mandico, Claire Simon,
Jean-Marie Larieux et Caroline Champetier. Et on vous attend très nombreux et nombreuses.
Beau programme. Merci beaucoup, vous qui nous écoutez. Restez avec nous, on revient tout de suite.